Oui, un agriculteur, un producteur de prunes se désolait en début de semaine et disait, je le cite, en une nuit, j'ai perdu le travail de l'année. Un violent épisode de gel est en effet survenu 3 nuits de suite entre dimanche et mardi, avec des températures descendues jusqu'à moins 4, moins 5 degrés. Les producteurs de fruits du sud-ouest ont été particulièrement touchés. Et c'est vers le département du Lot-et-Garonne que nous nous tournons ce matin. Nous sommes en ligne avec le président de sa chambre d'agriculture. Bonjour Serge Bousquet-Cassagne.
Bonjour.
À J+2, quelles sont les pertes pour le département du Lot-et-Garonne?
Elles sont conséquentes, aussi importantes que l'an passé, et notamment sur le fleuron de notre production, qui est la prune à pruneaux, le pruneau d'Agen, où les pertes sont à peu près de 70 à 80%.
Gros coup dur pour la profession. Est-ce que vous pouvez envisager que l'approvisionnement va être poursuivi pour l'année prochaine?
Ah, bah écoutez, pour cette saison, en prune à pruneau, en tous les cas, il en manquera sur les marchés. Alors, ce n'est pas une production essentielle, évidemment, ce n'est pas du blé ou pour faire du pain, mais on n'aura plus, donc toute la filière va être impactée, et notamment tous les transformateurs qui n'auront pas de produits, et donc beaucoup de monde au chômage, beaucoup d'usines en arrêt, etc. Donc voilà, non, c'est une vraie catastrophe. Alors, bon, quoi dire sur votre radio, radio chrétienne, et donc de dire que le bon Dieu nous a peut-être punis une fois de plus, parce que ça fait deux fois en 2 ans. Mais on va pas dire ça comme ça, on va dire que la nature, nous donne des leçons, et à nous d'être humbles envers cette nature, et de repartir de plus belle, hein. C'est le message qu'on fait passer à nos agriculteurs, en leur disant que demain il fera soleil, il fera beau, et que on va semer ou planter des cultures de compensation pour passer l'année, et se remettre à s'occuper de nos arbres, pour que l'an prochain il nous donne une belle récolte hors gel.
Bon, belle résilience. Mardi, le Premier ministre Jean Castex s'est rendu dans le Tarn-et-Garonne. Il était accompagné du ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. Il a promis un fonds d'aide d'urgence de 20 millions d'euros et l'activation du Fonds national des calamités agricoles. Est-ce que pour vous, ces mesures sont suffisantes?
C'est jamais suffisant, vu l'ampleur des dégâts, mais bon, c'est déjà un commencement. Ce qu'ont surtout besoin les agriculteurs, les arboriculteurs, c'est qu'on leur foute la paix. C'est-à-dire qu'on les accompagne, qu'on les aide, qu'on leur donne pas de leçons, de leur expliquer qu'il y a du réchauffement climatique, qu'ils devraient faire comme ci ou comme ça pour éviter le gel. Ils sont assez intelligents et ils ont assez de résilience pour savoir ce qu'ils ont à faire. Ils connaissent parfaitement la nature et les tours qu'elle peut nous jouer. Et donc, c'est surtout qu'on les honore, je pense, parce qu'il faut un travail extrêmement ingrat, mais un travail qui est extrêmement valorisant aussi, puisqu'ils nourrissent les hommes, de manière générale. Et je trouve que l'agribashing, rajouté aux déboires de la nature, ça fait un peu trop, quoi. Et il y a une immense lassitude chez les agriculteurs de notre région et du département du Lot-et-Garonne. Et cette lassitude, on pourrait lutter contre en les accompagnant. Certes avec des aides financières, mais aussi avec une espèce d'aide morale qui pourrait les valoriser.
Est-ce que cette aide morale est justement ce qui a été mis en place par la région Occitanie, puisque elle a mis en place une cellule de crise qui permettait une action commune et qui permet de soutenir au cas par cas les entreprises touchées? Est-ce que vous pensez que ça participe justement à ce soutien moral des arboriculteurs?
Alors, ça peut le faire, c'est clair, et tout soutien est appréciable. Notamment des collectivités locales, mais je vous redis que c'est une accumulation d'agribashing depuis tant et tant d'années, où on nous indique que nous sommes les plus grands pollueurs de la planète, que nous sommes des empoisonneurs, que ci, que là, qui fait que derrière nous sommes un peu désabusés de nos prochains et des gens que nous nourrissons, quoi. Nous leur tendons une main honnête en leur proposant des produits agricoles merveilleusement produits dans nos régions, avec des labels de qualité de partout, et en échange, on nous mord la main en nous disant que nous sommes de dangereux personnages. Donc ça c'est épuisant, hein. Au-delà du gel, hein. C'est épuisant, parce que la nature, nous, on sait faire, hein. on est habitué, le climat, on sait qu'il y a des années où ça ne fera pas parce que la nature l'a décidé et c'est comme ça. Mais par contre les humains, oulala, c'est très compliqué, quoi.
Eh oui, bien sûr. Et pourtant, vous l'évoquiez au début de cet entretien, l'année dernière, quasiment jour pour jour, il y avait eu un autre épisode sévère de gel, donc qui avait duré peut-être un petit peu plus longtemps avec des températures qui étaient descendues un petit peu moins bas. Mais pourtant, cet épisode faisait suite à un épisode de printemps précoce. Est-ce que vous pouvez comparer les dégâts de l'an dernier par rapport à ceux de cette année? Est-ce qu'il y a... Vous disiez que c'est un petit peu plus, mais est-ce que dans les autres fruits et légumes...
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, le Lot-et-Garonne c'est un des jardins de la France avec le Tarn-et-Garonne. Oui. Hein. On a 70 productions, donc beaucoup gélive, bien sûr. Hein. Et donc, ce que je peux dire, c'est que la vigne a peut-être un peu moins souffert cette année. La vigne, un peu moins souffert, et par contre tout ce qui est fruits à noyaux a beaucoup plus souffert parce que d'habitude ils gèlent dans les vallées et les coteaux sont épargnés. Eh bien cette année c'est presque l'inverse, il a autant gelé dans les coteaux que dans les vallées. Et donc par précaution, les agriculteurs ils plantaient leurs arbres et leurs pruniers dans les coteaux parce qu'ils savaient que dans les vallées il y avait du gel régulièrement, plus régulièrement. Et cette année on s'est fait attraper. Bon voilà, c'est comme ça. J'ai 63 ans, j'avais jamais vu deux années de gel successives. C'est fait. Bon, c'est comme ça aussi. Donc il faut avoir de la résilience vis-à-vis de cela. Mais je le redis, à une condition, c'est que tout le monde nous accompagne et honore les agriculteurs. Alors pas moi, j'en ai pas besoin, mais mes collègues en ont vraiment besoin de réconfort, on va dire.
Voilà, je pense que votre message, en tout cas, est passé. En tout cas, nous, Radio Présence et ses auditeurs soutiennent et vous tirent un grand coup de chapeau pour tout votre travail. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a reconnu le caractère de calamité agricole. Il a ouvert un dispositif d'indemnisation complémentaire le 25 mars dernier. Mais pour bénéficier de cette aide, il faut avoir souscrit à une assurance multirisque climatique. Est-ce que c'est le cas de tous les
alors non une assurance multirisque tout court, donc tout le monde a une multirisque tout court pour ses véhicules, etc. et cela suffit. Donc la procédure de calamité agricole, malheureusement, on la connaît merveilleusement bien puisque on l'a appliquée l'an dernier et on s'en est servi. C'est quelque chose qui est relativement long. Puisque les agriculteurs qui ont été gelés en 2021 touchent les indemnités de cette procédure qu'actuellement. Mais malgré tout, il y a quand même des aides qui sont relativement conséquentes. Je pèse mes mots, hein, que les agriculteurs qui nous écoutent soient rassurés. L'an dernier, en 2021, l'État a entre guillemets mis quand même le paquet, notamment avec les charges sociales et la MSA. Alors, il y a un bug, évidemment, parce qu'il y a toujours un bug en France. Hein.
C'est la mutuelle sociale agricole.
Ouais, la mutuelle sociale agricole. Le bug, c'est que l'Europe a retoqué la manière dont la mutuelle sociale agricole devait nous proposer une année blanche sans cotisation pour l'année 2021. Donc on est un peu coincé à ce niveau-là. Mais sinon, il y a eu des aides relativement conséquentes l'an passé pour le gel en 2021.
Aspersion sur les arbres, bougies, feux de paille. On a l'impression que tout avait pourtant été anticipé cette année hein, pour pallier au gel des cultures, puisque Météo France avait alerté de cet épisode. À votre avis, quelles mesures supplémentaires seraient nécessaires pour se protéger à l'avenir et faire face à ce fameux dérèglement climatique, gros mot pour les agriculteurs que voilà.
Oui, c'est un gros mot, hein, parce que moi, le dérèglement climatique, je suis sceptique là-dessus. Hein, bon, c'est mon opinion. Et simplement, les agriculteurs, je le redis, face à la nature, ils emploient tous les moyens qu'ils peuvent pour sauver leur récolte. Voilà, ça c'est clair. Et ils ont tout essayé, ils ont fait brûler des bottes de foin, ils ont aspersé, ils ont ventilé, ils ont mis des chaufferettes avec de la cire, etc. Vous avez vu les images et tout dans les vignobles, dans les vergers. Ils ont tout essayé et ils se sont battus comme ils doivent se faire, comme ça doit se faire. Parce que votre récolte, il faut la sauver. Voilà, c'est dans notre ADN, c'est notre nature, c'est comme ça que nous fonctionnons. Voilà, on travaille pas pour rien. On essaie de voilà, la terre nous nourrit à tous et il faut sauver nos récoltes. C'est dans la normalité. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et pour le gel, quand vous descendez à -4, -5, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que des pis-aller qui sont nécessaires hein, parce que, je vous le redis, l'agriculteur, il ne peut pas regarder sa récolte se faire dévaster sans rien faire. Donc, il fait. Voilà. Mais ça ne marche pas. Mais il a fait.
Et pour les épisodes de... Alors, outre le gel, puisque vous dites qu'il n'y a rien à faire quand on descend à des températures très basses, quand il s'agit d'inondations, puisque là aussi, il y a eu des fortes inondations, et puis à l'inverse, quand même des épisodes de sécheresse, est-ce que là, il y a des solutions qui sont envisagées ?
Ben, sur les inondations, il suffit de faire des fossés et de les entretenir. Alors là, on revient dans le gribashing, hein, puisqu'on nous interdit de tout dans nos campagnes, hein, ni de faire un fossé, ni surtout de faire un lac pour retenir l'eau de l'hiver pour l'été. On est bien placé à Lot-et-Garonne, vous avez dû entendre parler du lac de Caussade, ou Sivens en Tarn-et-Garonne. Et donc, là aussi, effectivement, ça trait à l'agribashing. Pour la sécheresse, dans ce sud-ouest, où il pleut quand même sacrément, pas au bon moment, plutôt en hiver qu'en été, eh bien, il serait si facile de faire des réserves d'eau, mais là, on se heurte à l'imbécilité d'une partie de la population orchestrée par les écologistes, les pseudo-écologistes, parce que les premiers écologistes de la terre, c'est les agriculteurs, et bien sûr. Et donc, on se heurte à ces gens-là qui, dans une psychose fascisante, nous empêchent de faire quoi que ce soit, quoi. Voilà. Et donc, par contre, oui, effectivement, pour lutter contre la sécheresse, il y a l'irrigation. Hein. Ça, c'est vieux comme le monde, là. Hein.
Oui, c'est vieux comme le monde. Oui, avec des réserves, comme vous le disiez. Merci beaucoup, Serge Bousquet-Cassagne. J'espère que votre coup de gueule sera entendu. Et puis, à chacun, en tout cas, de tirer notre chapeau pour le travail que vous faites. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Au revoir.
Merci à vous.